Chapitre 40. Des yeux rouges et bleus.
Mort sur les lèvres, bruit dans les airs, cendre sur la peau. Extrait de l'ultime désolation d'Ambrian, ligne 335.
Kaladin sortit à la lumière en titubant, abritant ses yeux du soleil brûlant, et ses pieds nus perçurent la transition de la pierre froide de l'intérieur à celle de l'extérieur, chauffée par le soleil. L'air était légèrement humide, plutôt que lourd et chaud comme les semaines précédentes. Il posa la main sur le châssis de porte en bois, les jambes tremblant traîtreusement, les bras lui donnant l'impression d'avoir porté un pont pendant 3 jours d'affilée. Il inspira profondément. Son flanc aurait dû le brûler, mais il n'éprouvait qu'une douleur résiduelle. Une partie de ses plaies les plus profondes était encore recouverte d'une croûte, mais les plus petites avaient totalement disparu. Ses idées étaient étonnamment claires. Il n'avait même pas de mal de tête. Il contourna le côté de la baraque, se sentant plus fort à chaque pas, bien qu'il garde sa main contre le mur. Lopen le suivait. Le Herdasien surveillait Kaladin depuis son réveil. « Je devrais être mort ?» songea Kaladin. « Que se passe-t-il » De l'autre côté de la baraque, il eut la surprise de trouver les hommes en train de porter leur pont pour leur entraînement quotidien. Rock courait au milieu du premier rang, guidant la cadence de la marche comme Kaladin le faisait auparavant. Ils atteignirent l'autre côté du dépôt de bois et firent demi-tour pour courir en sens inverse. Ce fut seulement quand ils eurent presque dépassé la baraque que l'un des hommes à l'avant, Moash, aperçut Kaladin. Il s'immobilisa et faillit faire basculer toute l'équipe de pont. « Qu'est-ce qu'il prend ?» lui cria Thorfinn depuis l'arrière, la tête recouverte par le bois du pont. Moash ne l'écouta pas. Il sortit de sous le pont et regarda Kaladin en ouvrant de grands yeux. Rock cria aussitôt aux hommes de poser le pont. D'autres le virent et adoptèrent la même expression déférente que Moash. Ober et Pete, dont les blessures avaient suffisamment guéri, avaient commencé à s'entraîner avec les autres. C'était une bonne chose. Ils allaient recommencer à toucher leur paix. Les hommes marchèrent vers Kaladin, silencieux dans leur gilet de cuir. Ils gardèrent leur distance, hésitant, comme s'il était fragile ou sacré. Kaladin était torse nu, dévoilant ses blessures presque guéries et ne portait que son pantalon d'homme de pont qui lui descendait aux genoux. « Vous devez vraiment vous entraîner à réagir si l'un d'entre vous trébuche, messieurs, » dit Kaladin. « Quand Moash s'est arrêté brusquement, vous avez tous failli basculer. Sur le terrain, ça pourrait être une catastrophe. » Ils le regardèrent fixement, incrédules, et ne purent s'empêcher de sourire. L'instant d'après, ils s'amassaient autour de lui en riant et en lui donnant des tapes dans le dos. Ce n'était pas une façon très appropriée d'accueillir un malade, surtout quand Rock s'y mettait. Mais Kaladin apprécia leur enthousiasme. Seul Teft ne les rejoignit pas. L'homme de pont vieillissant restait sur le côté, bras croisés. Il semblait inquiet. « Teft ?» demanda Kaladin. « Tout va bien ?» Teft ricana, mais esquissa un sourire. « Je me disais juste que ces garçons se baignent trop rarement pour que j'aie envie de m'approcher assez pour les serrer dans mes bras. Ne le prenez pas mal. » Kaladin éclata de rire. « Je comprends. » Son dernier bain remontait à la tempête majeure. La tempête majeure. Les autres hommes de pont continuèrent à rire, lui demandant comment il allait, déclarant que Rock allait devoir préparer quelque chose de particulièrement spécial pour leur repas nocturne près du feu. Kaladin sourit et hocha la tête, les assura qu'il allait bien. Mais il se rappelait la tempête. Il se la rappelait nettement. Accroché à l'anneau qui surmontait le bâtiment, tête baissée et yeux clos pour se protéger de la pluie torrentielle. Il se rappelait Syl qui se tenait devant lui d'un air protecteur, comme si elle était capable de chasser la tempête elle-même. Il ne la voyait pas en ce moment même. Où était-elle ? Il se rappelait également ce visage. Le père des tempêtes en personne ? Certainement pas. Une illusion. Oui, c'en était certainement une. Les souvenirs des sprennes de mort se mêlaient à celui des moments de sa vie qu'il avait revécus. Et les deux se mêlaient également à d'étranges et soudaines décharges de puissance, glacées, mais rafraîchissantes. Ça avait été pareil à l'air froid d'un matin vif, après une longue nuit dans une pièce étouffante, ou à la sève de feuilles de gulquette avec laquelle on frottait les muscles endoloris pour susciter une impression de chaud et de froid tout à la fois. Il se rappelait si clairement ces moments. Qu'est-ce qui les avait provoqués ? La fièvre ? Combien de temps ? Demanda-t-il en passant en revue les hommes de pont et en les comptant. 33, si l'on incluait l'open et le discret d'Abid. Presque tous étaient là. Impossible. Si ses côtes avaient guéri, il avait dû être inconscient pendant 4 semaines au moins. Combien de courses au pont ? 10 jours, répondit Moash. Impossible, dit Kaladin. Mes blessures, c'est pour ça que nous sommes si surpris de vous voir debout, dit Rock en riant. Vous devez avoir des os comme granit. C'est vous qui devriez avoir mon nom. Kaladin se laissa aller contre le mur. Personne ne corrigea Moash. Une équipe entière d'hommes ne pouvait pas perdre ainsi le compte des semaines. Idolir et Trèfle ? Demanda-t-il.
Nous les avons perdus, dit Moash d'un air grave. Nous avons fait 2 courses au pont pendant que vous étiez inconscient. Personne de gravement blessé, mais...
2 morts. Nous n'avons pas su comment les aider. Les hommes s'assombrirent à ces mots. Mais la mort était le lot des hommes de pont, et ils ne pouvaient pas se permettre de s'attarder trop longtemps sur les disparus. Kaladin décida, en revanche, qu'il allait devoir en former quelques autres à soigner. Mais comment pouvait-il être debout ? Avait-il été moins gravement blessé qu'il ne l'avait cru ? Hésitant, il tâta son flanc en quête de côtes brisées. Rien qu'une légère douleur. La faiblesse mise à part, il se sentait en aussi bonne santé qu'il l'avait toujours été. Peut-être aurait-il dû prêter davantage attention aux enseignements religieux de sa mère. Lorsque les hommes se remirent à parler et à se réjouir, il remarqua la façon dont ils le regardaient. Avec respect, déférence. Il se rappelait ses paroles d'avant la tempête majeure. Avec le recul, Kaladin comprenait qu'il avait été en proie au délire. Ça semblait à présent une déclaration d'une incroyable arrogance, sans parler de ses accents prophétiques. Si les ardents le découvraient... Eh bien, il ne pouvait pas défaire ce qu'il avait fait. Il allait simplement devoir continuer. « Tu étais déjà en équilibre au bord d'un gouffre, » se dit-il. « Fallait-il que tu escalades une paroi encore plus haute ?» La sonnerie lugubre d'un cor retentit soudain à travers le camp. Les hommes de pont se turent. Le cor résonna 2 fois de plus. « Bah tiens, » dit Natam. « Nous sommes de service ?» demanda Kaladin.
« Ouais, » répondit Moash. « En rang, » aboya Rock. « Vous savez quoi faire ? Montrez au capitaine Kaladin que nous n'avons pas oublié comment faire ça. »«
Capitaine Kaladin ?» demanda Kaladin tandis que les hommes se mettaient en rang. « Ben ouais, » dit Lopen près de lui, parlant avec cet accent rapide qui semblait tant contrasté avec son attitude nonchalante. « Ils ont voulu désigner Rock comme chef de pont, mais on a simplement commencé à vous appeler capitaine, et lui chef d'escouade, ça mettait gaz en rogne. »
Lopen sourit. Kaladin hocha la tête. Les autres semblaient si joyeux, mais il avait du mal à partager leur humeur. Tandis qu'ils se mettaient en formation autour de leur pont, il commença à comprendre la source de sa mélancolie. Ces hommes étaient de retour au point de départ, ou pire encore. Il était faible et blessé, et avait offensé le haut prince en personne. Sa déesse ne serait pas ravie d'apprendre que Kaladin avait survécu à la fièvre. Les hommes de pont étaient destinés à être fauchés un par un. Le port latéral avait été un échec. Il n'avait pas sauvé ses hommes. Il leur avait simplement accordé un bref sursis.
« Les hommes de pont ne sont pas censés survivre. »
Il en soupçonnait la raison. Serrant les dents, il lâcha le mur de la baraque et traversa jusqu'à l'emplacement où les hommes de pont se tenaient en rang, tandis que les chefs des divisions d'escouade inspectaient rapidement leurs gilets et sandales. Rock mesura Kaladin du regard.
Et quelle est cette chose que vous croyez faire ?
Je me joins à vous, dit Kaladin.
Et que diriez-vous aux hommes si Ève venait de se réveiller d'une semaine de fièvre ?
Kaladin hésita. « Je ne suis pas comme les autres hommes, » se dit-il, avant de le regretter. Il ne pouvait pas commencer à se croire invincible. Courir maintenant avec l'équipe, dans son état de faiblesse, relèverait de l'idiotie pure et simple.
« Vous avez raison. Vous pouvez nous aider à porter de l'eau, le bouclard et moi, Gancho, » dit Lopen. « Nous sommes une équipe maintenant, on participe à toutes les courses. »
Kaladin hocha la tête. « D'accord. » Rock le mesura du regard. « Si je me sens trop faible au bout des ponts permanents, je rentrerai. Promis. » Rock hocha la tête à contre-cœur. Les hommes marchèrent en dessous du pont jusqu'au point de rassemblement, et Kaladin se joignit à Lopen et Dabid pour remplir les outres. Kaladin se tenait au bord du précipice, mains jointes derrière son dos, ses sandales tout au bord. Le gouffre le toisait, mais il ne croisa pas son regard. Il se concentrait sur la bataille qui se livrait sur le plateau suivant. Cette approche avait été facile. Ils étaient arrivés en même temps que les Parchendi. Au lieu de prendre la peine de tuer les hommes de pont, les Parchendi avaient adopté une position défensive au centre du plateau, autour de la chrysalide. À présent, les hommes de Sadeas les combattaient. Le front de Kaladin luisait de sueur à cause de la chaleur, et il éprouvait toujours un épuisement subsistant de sa maladie. Mais c'était loin d'être aussi terrible que ça aurait dû l'être. Le fils de chirurgien en lui était perplexe. Pour le moment, le soldat avait le dessus sur le chirurgien. Il était paralysé par le spectacle de la bataille. Les lanciers halétis en armure de cuir et plastron formaient une ligne incurvée qui pressait contre celle des guerriers Parchendi. La plupart des Parchendi utilisaient des haches de combat ou des marteaux, même si quelques-uns maniaient des épées ou des gourdins. Tous possédaient cette armure rouge-orangée poussant à même leur peau, et ils se battaient par paires, chantant tout du long. C'était la pire forme qui soit, le combat rapproché. Souvent, vous perdiez bien moins d'hommes lors d'une escarmouche où vos ennemis prenaient rapidement le dessus. Quand ça se produisait, votre commandant ordonnait la retraite pour réduire ses pertes. Mais les combats rapprochés, ils étaient brutaux et sanglants. Observez les combats, les corps s'effondrant sur les pierres, le mouvement des armes, les hommes poussés au bas du plateau, lui rappela ses premières batailles en tant que lancier. Son commandant avait été stupéfait de voir avec quelle aisance Kaladin supportait la vue du sang. Le père de Kaladin aurait été choqué de voir avec quelle aisance il le faisait couler. Il existait une grande différence entre les batailles en Aletkar et les combats sur les plaines brisées. Là-bas, il était entouré par les pires, ou du moins les moins bien entraînés, des soldats halétis. Des hommes qui ne tenaient pas leur rang. Et pourtant, malgré leur désordre, ces combats présentaient un sens à ses yeux. Ceux qui se déroulaient ici, sur les plaines brisées, n'en avaient aucun. Ça avait été là son erreur de calcul. Il avait transformé la tactique du champ de bataille avant de la comprendre. Il ne commettrait plus cette erreur. Rock alla se placer près de lui, rejoint par Sigzil. Le manche-corne aux membres épais contrastait vivement avec l'Azéen petit et discret. La peau de Sigzil était d'un brun soutenu, pas un noir véritable, comme celle de certains parches. Il avait tendance à rester seul.
« C'est du mauvais combat, » dit Rock en croisant les bras. « Les soldats ne seront pas contents, qu'ils gagnent ou pas. »
Kaladin hocha la tête d'un air absent, écoutant les cris, les hurlements et les jurons. Pourquoi est-ce qu'ils se battent, Rock ?
Pour l'argent, répondit Rock, et pour la vengeance. Vous devriez savoir cette chose. N'est-ce pas votre roi que les Parchendi ont tué ?
Ah, mais je comprends pourquoi nous nous battons, dit Kaladin. Mais les Parchendi, pourquoi se battent-ils ?
Rock sourit. C'est parce qu'il n'aime pas beaucoup l'idée de se faire décapiter pour avoir tué votre roi, je crois. Très désobligeant de leur part.
Kaladin sourit, bien qu'il trouve contre nature de se réjouir tout en regardant mourir des hommes. Son père l'avait formé trop longtemps pour qu'une mort, quelle qu'elle soit, le laisse indifférent. Peut-être, mais dans ce cas, Pourquoi se battent-ils pour les cœurs de gemmes? Leurs rangs se réduisent à cause de ce genre d'escarmouches.
« Vous savez cette chose ?» demanda Rock.
« Ils nous attaquent moins souvent qu'auparavant, » répondit Kaladin. « Les gens en parlent dans le camp, et ils ne frappent pas aussi près du côté Aleti qu'auparavant. »
Rock acquiesça d'un air songeur. « Ça semble logique. Ah, peut-être que nous allons bientôt remporter ce combat et rentrer chez nous. »«
Non, » dit doucement Sigzil. Il parlait d'une façon très soutenue, avec un très léger accent. Quelle langue parlaient les Azéens déjà? Leur royaume était si lointain que Kaladin n'en avait jamais rencontré qu'un seul autre.
J'en doute, et je peux vous dire pourquoi ils se battent, Kaladin.
Vraiment?
Ils doivent avoir des spiricantes. Ils ont besoin des gemmes pour la même raison que nous, pour fabriquer à manger.
Ça semble plausible, répondit Kaladin, main toujours jointe derrière son dos, pieds écartés.
Le repos de parade lui semblait toujours une position naturelle.
« Ce n'est qu'une conjecture, mais elle est plausible. Dans ce cas, laissez-moi vous poser une autre question. Pourquoi les hommes de pont ne peuvent-ils pas avoir de bouclier ?»«
Parce que cette chose nous ralentit, » dit Rock.
« Non, » dit Sigzil. « Ils pourraient envoyer à l'avant des ponts des hommes équipés de boucliers, qui courraient devant nous. Ça ne ralentirait personne. »
Oui, il faudrait emmener davantage d'hommes de pont, mais on sauverait assez de vies grâce à ces boucliers pour compenser l'augmentation des effectifs.
Kaladin hocha la tête. Sadea s'emmène déjà davantage d'hommes de pont que nécessaire. Dans la plupart des cas, on pose plus de ponts qu'il n'en a besoin.
Mais pourquoi ?
Demanda Sigzil.
Parce que nous faisons de bonnes cibles, dit doucement Kaladin, qui venait de comprendre. On nous place à l'avant pour attirer l'attention des Parchendi.
Évidemment, dit Rock en haussant les épaules. Les armées font toujours ces choses-là. Les plus pauvres et les moins entraînés passent en premier.
Je sais, répondit Kaladin, mais en règle générale, on nous accorde quand même un certain degré de protection.
Vous ne comprenez pas. Nous ne sommes pas simplement une première vague dispensable, nous sommes des appâts. Nous sommes exposés de façon à ce que les Parchendi ne puissent faire autrement que de nous tirer dessus, ce qui permet aux soldats ordinaires d'approcher sans être blessés. Les archers Parchendi ciblent les hommes de pont.
Rock fronça les sourcils.
« Des boucliers nous rendraient moins tentants, » dit Kaladin. « C'est pour ça qu'il les interdit. »
« Peut-être. »
dit Sigzil depuis le côté, songeur.
Mais ça semble idiot de gaspiller des soldats.
En réalité, ça n'est pas idiot, commenta Kaladin. Quand on est obligé d'attaquer des positions fortifiées à répétition, on ne peut pas se permettre de perdre ses soldats entraînés.
Vous ne comprenez pas?
Sadeas ne dispose que d'un nombre limité d'hommes entraînés. Mais les éléments sans entraînement sont faciles à trouver. Chaque flèche qui frappe un homme de pont est une flèche qui ne frappe pas un soldat qu'on a consacré beaucoup d'argent à équiper et à entraîner. C'est pour ça que Sadeas a tout intérêt à envoyer un grand nombre d'hommes de pont plutôt qu'un nombre plus petit, mais protégé.
Il aurait dû le comprendre plus tôt. Il avait été distrait par l'importance des hommes de pont au combat. Si les ponts n'atteignaient pas les gouffres, l'armée ne pouvait pas traverser.
Mais chaque équipe de pont était bien fournie en nombre, et l'on envoyait au combat deux fois plus d'équipes de pont que nécessaire. Voir tomber un pont devait fournir une grande satisfaction aux Parchendi, et ils avaient généralement l'occasion d'en faire tomber deux ou trois lors de chaque course qui tournait mal, parfois plus. Tant que les hommes de pont mouraient et que les Parchendi ne passaient pas leur temps à tirer sur les soldats, Sadeas avait des raisons de garder les hommes de pont vulnérables. Les Parchendi aurait dû voir le stratagème, mais il était très difficile de détourner ses flèches d'un homme sans armure qui transporte le matériel de siège. Les Parchendi étaient censés être des combattants dépourvus de la moindre finesse. En effet, maintenant qu'il observait le combat depuis l'autre plateau, qu'il l'étudiait, se concentrait, il constatait que c'était vrai. Alors que les Aleti maintenaient une ligne droite et disciplinée, où chaque homme protégeait ses partenaires,
les Parchendi attaquaient par paires indépendantes. Les Aleti possédaient une tactique et une technique supérieures. Chacun des Parchendi était supérieur en force, c'était vrai, et leur adresse à manier ses haches était remarquable. Mais les soldats Aleti de Sadeas étaient bien entraînés aux formations modernes. Une fois qu'ils avaient trouvé prise, et s'ils pouvaient prolonger le combat, leur discipline leur assurait souvent la victoire. Les Parchendi n'avaient jamais livré de bataille prolongée avant cette guerre, décida Kaladin. Ils ont l'habitude d'escarmouches plus petites, peut-être contre d'autres villages ou d'autres clans. Plusieurs des autres hommes de pont se joignirent à Kaladin, Rock et Sigzil. Peu de temps après, la majorité d'entre eux se retrouva là, certains imitant la posture de Kaladin. Il fallut une heure encore pour remporter la bataille. Sadeas était victorieux, mais Rock avait raison. Les soldats étaient d'humeur maussade. Ils avaient perdu beaucoup d'amis ce jour-là. Ce fut un groupe de lanciers fatigués et abattus que Kaladin et les autres reconduisirent au camp. Quelques heures plus tard, Kaladin était assis sur un rondin près du feu nocturne du pont 4. Syl était assise sur son genou, ayant pris la forme d'une petite flamme translucide, bleue et blanc. Elle était venue vers lui lors du trajet de retour, tournoyant avec jubilation de le voir debout, mais n'avait pas fourni d'explication quant à son absence. Le feu véritable crépitait, avec la grande marmite de roc en train de bouillonner au-dessus, et quelques sprennes de flammes dansaient sur les bûches. Toutes les deux ou trois secondes, quelqu'un demandait à Rock si le ragoût était prêt, souvent en cognant son bol d'un coup de cuillère bon enfant. Rock continuait à remuer sans un mot. Tous savaient que personne ne mangeait avant qu'il ne déclare le ragoût terminé. Il mettait un point d'honneur à ne jamais servir de nourriture inférieure. L'air embaumait les boulettes de pâte en train de cuire. Les hommes riaient. Leur chef de pont avait survécu à son exécution et la course au pont du jour n'avait pas coûté une seule vie. Tous étaient d'excellente humeur. Tous, sauf Kaladin. Il comprenait à présent. Il comprenait à quel point leur lutte était futile. Il comprenait pourquoi Sadeas n'avait pas pris la peine de réagir à la survie de Kaladin. Il était déjà un homme de pont, ce qui était en soi une condamnation à mort. Kaladin avait espéré prouver à Sadeas que son équipe de pont pouvait se montrer efficace et utile. Il avait espéré prouver qu'il méritait une protection, des boucliers, des armures, un entraînement. Kaladin avait pensé que, s'ils agissaient comme des soldats, on les considérerait peut-être comme tels. Rien de tout ça ne fonctionnerait. Un homme de pont qui survivait était, par définition, un homme de pont qui avait échoué. Ces hommes riaient et profitaient du feu. Ils lui faisaient confiance. Il avait accompli l'impossible, survécu à une tempête majeure, blessé, attaché à un mur. Il allait certainement accomplir un autre miracle, pour eux cette fois. C'étaient de braves hommes, mais ils réfléchissaient comme des fantassins. Les officiers et les Palsiris se souciaient du long terme. Les hommes étaient nourris et heureux, et ça leur suffisait pour l'heure. Mais pas à Kaladin. Il se retrouvait face à face avec l'homme qu'il avait laissé derrière lui. Celui qu'il avait abandonné la nuit où il avait décidé de ne pas se jeter dans le gouffre. Un homme au regard hanté, qui avait cessé d'espérer ou de se soucier de quoi que ce soit. Un cadavre ambulant. « Je vais les abandonner », songea-t-il. Il ne pouvait pas les laisser continuer à porter les ponts en mourant un par un. Mais il ne trouvait pas la moindre alternative, et leur rire le déchirait. L'un des hommes, Carto, se leva et fit un geste pour demander le silence. C'était l'intervalle entre deux lunes, et seul le clair de lune l'éclairait donc. Le ciel, au-dessus d'eux, était criblé d'étoiles. Plusieurs d'entre elles se déplaçaient, minuscules points lumineux se pourchassant mutuellement, filant comme de minuscules insectes luisants. Les sprennes des étoiles, ils étaient rares. Carto était un individu au visage aplati, à la barbe broussailleuse, aux épais sourcils. Tout le monde le surnommait Carto à cause de la tache de naissance sur sa poitrine, dont il jurait qu'elle était la copie exacte de la carte d'Aletkar, bien que Kaladin n'y ait vu aucune ressemblance. Carto s'éclaircit la gorge.
C'est une belle soirée, une soirée particulière tout ça. Notre chef de pont est de retour.
Plusieurs des hommes applaudirent. Kaladin s'efforça de ne rien montrer de son malaise.
Nous avons un bon repas qui arrive,
poursuivit Carto, avant de regarder Rock.
Il arrive, n'est-ce pas, Rock?
Il arrive,
répondit Rock sans cesser de remuer.
Tu en es sûr? On pourrait partir pour une autre course au pont, te laisser encore un peu de temps, tu sais, 5 ou 6 heures.
Rock lui lança un regard furieux. Les hommes éclatèrent de rire, et plusieurs cognèrent leur bol à l'aide de leur cuillère. Carto gloussa de rire, puis tendit la main vers le sol, derrière la pierre sur laquelle il était assis. Il en tira un paquet enveloppé de papier qu'il jeta à Rock. Surpris, le grand manche-corne le rattrapa de justesse et faillit le laisser tomber dans le ragoût.
« De notre part à tous !» dit Carto, un peu gêné. « Pour nous avoir préparé le ragoût chaque soir. Ne crois pas qu'on n'ait pas remarqué tout le mal que tu te donnes. On se détend pendant que tu cuisines. Et tu sers toujours les autres en premier. Alors, on t'a acheté quelque chose pour te remercier. »
Il s'essuya le nez sur le bras, gâchant légèrement le moment, puis se rassit. Plusieurs des autres hommes de pont lui donnèrent des tapes dans le dos pour le complimenter de son discours. Rock défit le paquet et le regarda fixement un long moment. Kaladin se pencha pour tenter d'en voir le contenu. Rock y plongea la main puis souleva l'objet. C'était un rasoir coupe-chou d'acier argenté, luisant. Un morceau de bois en recouvrait le tranchant. Rock le retira pour inspecter la lame.
« Crétin con trop d'air !» dit-il tout bas. « C'est magnifique !»«
Il y a aussi un morceau d'acier poli, » dit Pete, « pour servir de miroir, et du savon à barbe, et un cuir de barbier pour l'aiguiser. »
Spectacle étonnant. Rock en eut les larmes aux yeux. Il se détourna de la marmite, portant ses cadeaux dans les bras.
« Le ragoût est prêt !»
dit-il. Puis il se précipita en courant dans la baraque. Les hommes restèrent assis en silence.
« Père des tempêtes !» dit enfin le jeune Denis. « Vous croyez qu'on a bien fait? Enfin, je veux dire, vu la façon dont il se plaint... »«
Je crois que c'était parfait, » dit Eft.
« Laissez à cette grande brute le temps de s'en remettre. »
« Désolé de ne rien avoir pour vous, capitaine, » dit Carto à Kaladin. « On ne savait pas que vous seriez réveillé. »«
Ne vous en faites pas, » répondit Kaladin.
« Bon, » dit Scar. « Quelqu'un veut bien servir ce ragoût ou on va rester assis ici à mourir de faim jusqu'à ce qu'il brûle ?»
Denis se releva d'un bond et s'empara de la louche. Les hommes se rassemblèrent autour de la marmite et se bousculèrent jusqu'à ce que Denis les serve. Sans Rock pour les gronder et les garder en rang, c'était un peu la mêlée. Seul Sigzil ne se joignit pas aux autres. L'homme silencieux à la peau brune resta assis sur le côté, ses yeux reflétant les flammes. Kaladin se leva. Il était inquiet, terrifié même, de redevenir ce misérable. Celui qui avait renoncé à se soucier des autres parce qu'il ne voyait pas d'alternative. Il chercha donc la conversation et s'avança vers Sigzil. Son mouvement dérangea Syl, qui renifla et alla se poser sur son épaule. Elle conservait la forme d'une flamme vacillante. C'était encore plus perturbant d'avoir ça sur son épaule. Il ne dit rien. Si elle savait qu'elle le dérangeait, elle le ferait sans doute davantage. Elle restait une sprène du vent, après tout. Kaladin s'assit près de Sigzil. « Pas faim ?»«
Ils sont plus impatients que moi, » dit Sigzil. « Si je me fie aux soirées précédentes, il en restera encore assez pour moi une fois qu'ils auront rempli leur bol. »
Kaladin hocha la tête. « J'ai apprécié votre analyse aujourd'hui sur le plateau. »
« Parfois, je suis doué pour ça. »«
Vous êtes instruit. Tout l'indique dans votre façon de parler et d'agir. » Sigzil hésita.
« Oui, » dit-il enfin. « Parmi mon peuple, ce n'est pas un péché que quelqu'un de sexe masculin ait l'esprit vif. »
« Pour les Aleti non plus. »
« D'après mon expérience, vous vous intéressez seulement à la guerre et à l'art de tuer. »
« Et qu'avez-vous vu de nous en dehors de notre armée ?»
« Pas grand-chose, » admit Sigzil.
« Donc,
Un homme instruit, dit Kaladin, songeur. Dans une équipe de ponts.
Mon éducation n'a jamais été terminée.
La mienne non plus. Sigzil le regarda d'un air curieux. J'étais apprenti chirurgien, dit Kaladin. Sigzil hocha la tête, ses épais cheveux noirs tombant sur ses épaules. Il avait été l'un des seuls hommes de pont à prendre la peine de se raser. Maintenant que Rock possédait un rasoir, ça changerait peut-être.
« Chirurgien ? » dit-il. « Je ne peux pas dire que ça m'étonne, compte tenu de la façon dont vous avez traité les blessés. Les hommes disent que vous êtes en réalité un paliris de très haut rang. »«
Quoi ? Mais mes yeux sont marron foncé. »«
Pardonnez-moi, » répondit Sigzil. « Je n'ai pas utilisé le bon mot. Vous n'avez pas le bon mot dans votre langue. Pour vous, un paliri, c'est la même chose qu'un chef. Dans d'autres royaumes, en revanche, d'autres choses font d'un homme un... Maudite soit cette langue, Aleti. Un homme de haute naissance. Un clarissime, mais sans les yeux. Quoi qu'il en soit, les hommes pensent que vous avez dû être élevé en dehors d'Aletkar, en tant que chef. »
Sigzil se retourna vers les autres. Ils commençaient à se rasseoir, attaquant leur ragoût avec entrain.
C'est l'aisance avec laquelle vous dirigez, la façon dont vous donnez envie aux autres de vous écouter. Ce sont des choses qu'ils associent aux palziris. Par conséquent, ils vous ont inventé un passé. Vous aurez du mal à les en dissuader maintenant.
Sigzil le mesura du regard.
À supposer que ce soit bien une invention. J'étais là, dans le gouffre, le jour où vous avez utilisé cette lance.
« Une lance, » dit Kaladin. « Une arme de soldat sombriris, pas une épée de paliris. »
« Pour beaucoup d'hommes de pont, la différence est minime. Tous sont bien au-dessus de nous. »«
Donc, quelle est votre histoire ?» Sigzil eut un sourire narquois.
« Je me demandais si vous allez me poser la question. Les autres disent que vous leur avez soutiré leur origine. »«
J'aime connaître les hommes que je dirige. »
« Et si certains d'entre eux sont des meurtriers ?» demanda Sigzil tout bas.
« Dans ce cas, je suis en bonne compagnie, » dit Kaladin. « Si c'est un paliris que vous avez tué, je vous paierai peut-être un verre. »«
Pas un paliris, » dit Sigzil. « Et il n'est pas mort. »«
Dans ce cas, vous n'êtes pas un meurtrier, » dit Kaladin.
« Pas faute d'avoir essayé. »
Le regard de Sigzil se fit lointain.
« Je croyais vraiment avoir réussi. » Ce n'était pas le choix le plus judicieux que j'ai jamais fait.
Mon maître. Il laissa sa phrase en suspens. C'est lui que vous avez essayé de tuer ?
Non.
Kaladin attendit, mais aucune autre information ne vint.
Un érudit, songea-t-il. Ou du moins, un homme de savoir. Il doit y avoir un moyen d'utiliser ça.
« Trouve un moyen de te sortir de ce piège mortel, Kaladin. Utilise ce que tu as. Il doit exister un moyen. »«
Vous aviez raison au sujet des hommes de pont, » dit Sigzil. « On nous envoie mourir. C'est la seule explication raisonnable. Il existe un endroit dans le monde, Marabetia. Vous en avez entendu parler ?»«
Non, » dit Kaladin.
« C'est près de la mer, au nord. » Dans les terres sélaïennes. Les gens y sont connus pour apprécier beaucoup les débats. À chaque carrefour de la ville, ils ont de petites estrades sur lesquelles on peut monter pour présenter ses arguments. On raconte que tout le monde, à Marabetia, porte une bourse contenant un fruit pourri, juste au cas où il passerait devant un proclamateur avec lequel il ne serait pas d'accord.
Kaladin fronça les sourcils. Il n'avait pas entendu Sigzil prononcer autant de mots à la suite depuis qu'ils étaient hommes de pont ensemble.
« Ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le plateau, » poursuivit Sigzil, en regardant devant lui, « ça m'a fait penser aux Marabétiens. Voyez-vous, ils ont une curieuse façon de traiter les criminels condamnés. Ils les suspendent par-dessus le bord de la falaise la plus proche de la ville, en les faisant descendre près de l'eau, à marée haute, avec une entaille sur chaque joue. Là-bas, une espèce particulière de maniocoque vit dans les profondeurs. Ces créatures sont connues pour leur saveur succulente, et bien entendu, elles possèdent des cœurs de gemmes. Bien moins grands que ceux de ces démons des gouffres, mais notables tout de même. Donc, les criminels deviennent des appâts. Un criminel peut demander à être plutôt exécuté, mais on dit que si vous restez suspendu là une semaine sans vous faire dévorer, on vous libérera.
Et ça se produit souvent ? Demanda Kaladin.
Sigzil secoua la tête. Jamais. Mais les prisonniers courent presque toujours le risque. Les marabétiens ont une expression pour parler de quelqu'un qui refuse de voir la réalité d'une situation. Ils disent « Tu as les yeux rouges et bleus. » Rouge pour le sang qui coule, bleu pour l'eau. On raconte que ce sont les deux seules choses que voient les prisonniers. En règle générale, ils se font attaquer le premier jour. Et pourtant, la plupart continuent à souhaiter courir ce risque. Ils préfèrent ce faux espoir.
Des yeux rouges et bleus, songea Kaladin, imaginant ce tableau morbide.
Vous faites du bon travail,
déclara Sigzil en se levant et en s'emparant de son bol.
Au départ, je vous ai détesté pour avoir menti à ces hommes. Mais j'en suis venu à comprendre qu'un faux espoir les rendait heureux. Ce que vous faites, c'est comme donner un médicament à un malade pour apaiser la douleur, jusqu'à ce qu'il meure. Maintenant, ces hommes peuvent passer leurs derniers jours à rire. Vous êtes effectivement un guérisseur,
Kaladin béni des foudres. Kaladin voulut protester, répliquer que ce n'était pas un faux espoir. Mais il ne put s'y résoudre. Pas alors qu'il avait le cœur dans l'estomac. Pas avec ce qu'il savait. Un instant plus tard, Rock surgit de la baraque.
« Je me sens de nouveau comme un véritable à l'île Tiki !» déclara-t-il en brandissant son rasoir. « Mes amis, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez fait. Un jour, je vous emmènerai au pic et je vous montrerai l'hospitalité des rois. »
Malgré toutes ses plaintes, il n'avait pas entièrement rasé sa barbe. Il avait laissé de longs favoris blonds roux qui descendaient en s'incurvant vers son menton. La pointe du menton elle-même était rasée de près, tout comme ses lèvres. Sur cet homme grand au visage ovale, l'effet ne passait pas inaperçu.
« Ah !» dit Rock en s'approchant du feu à grands pas. Il saisit les hommes les plus proches et les serra tous deux contre lui, ce qui faillit faire cracher son ragoût à Bizig. « Je vais tous vous intégrer à ma famille pour ça. Le Uma Kahaban, de l'habitant des pics et sa fierté. Je me sens de nouveau comme un homme véritable. Tenez, ce rasoir n'appartient pas à moi, mais à nous tous. Tous ceux qui veulent s'en servir doivent le faire. C'est mon honneur de le partager avec vous. »
Les hommes éclatèrent de rire, et quelques-uns le prirent au mot. Kaladin n'en faisait pas partie. Ça ne lui semblait tout simplement pas important. Il accepta le bol de ragoût que lui apportait Denis, mais ne mangea pas. Sigzil choisit de ne pas se rasseoir près de lui et se retira de l'autre côté du feu de camp.
« Des yeux rouges et bleus », songea Kaladin. Je ne sais pas si ça s'applique à nous.
Pour avoir les yeux rouges et bleus, Kaladin devrait croire qu'il existait au moins une petite chance que l'équipe de pont puisse survivre. Cette nuit-ci, il avait du mal à se convaincre. Il n'avait jamais été optimiste. Il voyait le monde tel qu'il était, ou essayait du moins. C'était un problème, cependant, quand il voyait une si terrible vérité.
Ô père des tempêtes,
songea-t-il en éprouvant le poids écrasant du désespoir, tandis qu'il baissait les yeux vers son bol.
Je suis en train de redevenir le misérable que j'étais. Je perds mon emprise sur ceci, sur moi-même.
Il ne pouvait pas porter les espoirs de tous les hommes de pont. Il n'était tout simplement pas assez fort.